RCF, l'œuf et la poule, Olivier Horry. Bonjour et bienvenue dans l'œuf et la poule. C'est la conversation philosophique, un écho aux ateliers hebdomadaires de philosophie à Aubenas avec une de ses passagères privilégiées et surtout régulière en la personne d'Odile Autré. Aujourd'hui, nous avons choisi de parler de l'homme et de l'animal, de leur relation ou pas d'ailleurs.
Bonjour. Alors, on pourrait peut-être se demander ce qu'il y a comme influence dans ces relations. Est-ce qu'elles sont influencées par le milieu? Est-ce qu'elles peuvent être symétriques, asymétriques? Pourquoi? Comment on peut voir ça sur un plan général et puis peut-être après d'espèce à espèce?
Oui, il me semble que les rapports de l'homme et de l'animal sont en règle générale des rapports d'être en réseau. La nature est un grand système matériel dans lequel il y a des êtres vivants qui échangent des relations. Et dans ce réseau-là, des êtres particuliers sont les animaux et d'autres êtres particuliers sont les hommes, qui sont d'ailleurs, comme certains animaux, des mammifères, c'est évidemment, y a une parité là qui va rendre leur relation plus peut-être privilégiée, plus forte. Mais nous avons, en règle générale, nous sommes en relation avec l'ensemble de la nature. Nous recevons des informations de la part de tous les êtres de la nature, mais surtout nous ne faisons pas que vivre parmi eux. Au milieu d'eux, avec eux, nous vivons d'eux, littéralement, parce que nous les mangeons, nous les adoptons, nous les domestiquons éventuellement, nous les mettons à notre service. Donc un rapport de relations extrêmement serré, un réseau de relations extrêmement serré, avec des relations privilégiées entre les hommes et les animaux. Des relations qui reposent donc sur un échange d'informations et puis une éventuelle exploitation réciproque, n'est-ce pas? Les animaux vont peut-être fortuitement avoir quelque intérêt à rentrer en relation avec nous. Nous avons peut-être aussi fortuitement, ou moins fortuitement, intérêt à entrer en relation avec les animaux. Mais on sent bien que dès le départ, ces relations ont toute chance, à mon sens, d'être assez asymétriques.
Elles sont asymétriques, mais les humains ont une organisation sociale, des organisations sociales. On le voit aussi chez certains animaux, chez certains insectes. Qu'est-ce qui diffère le plus? Est-ce que c'est l'intention, le projet ou l'organisation elle-même?
Les organisations, alors on distingue souvent dans la nature des animaux solitaires, les grands cerfs, des animaux grégaires. Des ruminants, par exemple, ou des abeilles, hein, sont des animaux grégaires. Et puis des animaux sociaux, hein, avec des relations sociales. On peut penser aux pongidés, aux grands singes, hein, par exemple. Et de ce point de vue-là, d'un point de vue extérieur en tout cas, les sociétés humaines et les sociétés animales, des animaux sociaux, hein, sont fort ressemblantes. Il semblerait qu'elles soient fort ressemblantes avec une division des rôles, avec des relations de pouvoir, et puis des objectifs communs, hein, aux animaux et aux hommes, des objectifs communs qui sont de se reproduire, de se nourrir, d'habiter, d'habiter le milieu. Hein. Donc de ce point de vue-là, il y a effectivement une tentation assez forte et légitime hein, de rapprocher les sociétés animales des sociétés humaines, afin éventuellement même d'ailleurs de s'expliciter les rapports humains en comprenant un peu mieux les rapports entre les animaux. Il n'est pas exclu que nous puissions comprendre des choses aux rapports humains en étudiant les rapports des animaux sociaux entre eux au sein de leur propre société. Toutefois, évidemment, il y a des différences. Alors ces différences, elles sont peut-être effectivement au niveau de l'intention, c'est-à-dire que les sociétés animales se réunissent autour d'intentions, je viens d'en parler, l'évolution montre que les sociétés animales et les comportements animaux sont formés dans l'intention de se reproduire. C'est le cœur même de l'évolution des espèces. Les humains se réunissent également dans une certaine intention. Les plus anciennes sociétés humaines connues, qu'on appelle les sociétés des galets aménagés, hein, c'est-à-dire à quoi on les repère, ces civilisations, si on peut pas, oui, je crois qu'on peut parler de civilisation, au fait que certaines pierres nous paraissent avoir été percutées volontairement pour créer un tranchant. Donc l'intentionnalité paraît au cœur même des rôles sociaux dans les sociétés humaines. Alors, en fait, la vraie question, elle est de savoir si l'intention qu'ont les animaux en se réunissant pour se reproduire est de même nature que l'intention des humains qui aménagent des galets pour en faire des racloirs, par exemple. Et il semblerait que ce ne soit pas tout à fait des intentions de même nature.
Et oui, on a du mal à détecter chez eux une intention sur le long terme. L'intention de la survie de l'espèce, s'ils ont conscience de leur espèce, oui, éventuellement. Mais après, une intention sur le long terme, on a du mal. Et qu'est-ce que nous diraient les philosophes anciens sur ce sujet? Qu'est-ce qu'ils en savaient? Ou qu'est-ce qu'ils pensaient de la vie animale et de la vie humaine?
Dans la tradition philosophique, je crois qu'on peut dire, je pense en disant ça, je pense à Platon, naturellement, ou plus précisément encore à Descartes, auquel on a déjà fait allusion dans cette émission. La différence, elle est dans le langage, dans la constitution d'idées abstraites et dans la possibilité de les communiquer, ces idées abstraites, par le langage. L'intention, donc, de la différence d'intention, elle est dans l'idée que l'animal a une intention qui est déjà une action, alors que l'homme, son intention a plutôt l'allure d'une signification. Je veux dire quelque chose, je veux aller vers quelque chose, ce qui expliquerait, par exemple, que les animaux peuvent très bien, certains animaux peuvent très bien utiliser un outil provisoire, mais ne vont pas, semble-t-il, le conserver pour l'améliorer. Associer, par exemple, deux outils, une branche, une pierre, etc., pour en faire un troisième. C'est cette idée d'un sens dans lequel on peut aller, vers lequel on peut se diriger, qui distinguerait l'intention animale de l'intention humaine. On pourrait dire une intention plus réfléchie, une intention à vertu anticipatrice, beaucoup plus, d'une certaine manière, et moins programmée.
L'avenir tel que nous le définit n'existerait probablement pas, mais il peut y avoir quand même une forme d'apprentissage qui serait un début. Apprendre à son jeune à utiliser un objet, ça suppose qu'on sait qu'à un moment donné, il va en avoir besoin.
Oui, tout à fait. Il y a là l'idée qu'il y a dans le monde animal une zone manifestée par exemple dans l'apprentissage, une zone que nous avons en commun avec les animaux, qui est cette vertu d'adaptabilité progressive à côté d'une adaptation innée, acquise, enfin, donnée de manière innée. Hein, c'est peut-être là qu'il y aurait besoin de creuser un tout petit peu après avoir entendu un peu de musique.
RCF, Olivier Horry.
Stevie Ray Vaughan et Double Trouble dans Riviera Paradise. Et nous sommes dans cette conversation philosophique, l'œuf et la poule, un écho de l'atelier philo hebdomadaire d'Aubenas avec Odile Autré.
Alors, on est dans une discussion sur les relations hommes-animaux. Est-ce qu'on pourrait distinguer un petit peu les animaux, plutôt les grands animaux, les mammifères si...
Ben, quand on parle de relations, je pense qu'il y a un intérêt particulier à comparer l'homme plutôt avec les autres mammifères en raison des plus nombreuses analogies qui existent à partir de ce moment-là. La différence de genre, par exemple, hein, le fait de mâle-femelle. On en parlait, qui est comme une, évidemment la plus au vivant en général, mais la différence est très marquée chez les mammifères. Et puis, elle est marquée en particulier, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler à ce micro, les différences morphologiques et physiques entre les hommes et les femmes sont vraisemblablement appelées à être gérées d'une manière plus ou moins adroite et civilisationnelle en fonction des périodes de l'humanité. Et des sociétés humaines. Et puis, on en parlait un petit peu avant, les mammifères, on partage avec les humains qui en sont aussi la notion de petit, les petits d'hommes, hein, sont un petit peu comme les petits singes, les chiots, etc. C'est-à-dire qu'on parlait d'apprentissage, les mammifères sont des animaux pour lesquels, en général, il y a une phase plus ou moins longue de gestation d'abord, et puis d'allaitement ensuite, et puis et beaucoup plus largement, évidemment, d'apprentissage. Si bien que la différence sexuelle visible, et puis les âges de la vie, hein, c'est-à-dire l'enfance, la maturité, l'âge adulte et puis la vieillesse, fournissent beaucoup d'analogies entre les mammifères et les humains. Et d'ailleurs, nous domestiquons pas mal de mammifères, les chiens, les chats, je pense évidemment prioritairement, avec lesquels nous entretenons des relations extrêmement serrées. On parle d'animaux domestiques, à juste titre, ils entrent dans le foyer, ils nous accompagnent souvent de longues périodes de notre vie. Donc je pense qu'effectivement, il y a un intérêt à creuser la commune appartenance des hommes et de certains animaux à la classe des mammifères.
Dans ce domaine-là, du coup, on pourrait parler de la transmission, parce qu'on partage avec eux une certaine transmission. Les parents, pas seulement la mère ou pas toujours la mère, transmet à son jeune des savoirs. Qu'est-ce qu'on peut en dire plus particulièrement, du coup, sur à propos des mammifères, cette transmission ?
C'est là que nous retrouvons inévitablement la distinction que nous avons faite entre deux types d'intentions. C'est-à-dire que dans l'action de l'animal, il y a une adaptation au restant de la nature pour pouvoir y vivre et s'y reproduire, qui semble exister dans un cadre plutôt fermé. Et ce cadre évolue avec l'évolution des espèces, c'est-à-dire par transmission génétique des caractères des individus les plus aptes, les plus forts, les plus susceptibles de se reproduire justement. Alors que chez l'homme, on l'a vu, l'intention de celui qui fabrique un outil n'est pas tout à fait la même que l'intention de l'animal qui veut se reproduire, par exemple. L'intention, elle devient là aussi nécessairement plus abstraite, plus réflexive. Et l'apprentissage, évidemment, en même temps, change de nature. L'apprentissage chez les animaux, il se fait par imitation des comportements, mais cette imitation du comportement du petit à l'égard de la mère ou du père, ils sont dans le cadre d'une programmation génétique innée. Alors que nous, cette imitation, qui bien sûr se réalise, les petits d'hommes apprennent essentiellement en imitant, et c'est même par l'imitation que nous apprenons à apprendre, hein, à connaître. Évidemment, elle est beaucoup plus du côté d'un acquis pur. Elle est moins soutenue par notre programmation génétique, et elle nous fait rentrer dans une... Elle nous fait rentrer, nous comme individus, mais elle fait rentrer toute l'espèce à l'intérieur d'une transmission qui devient une biographie et qui devient une histoire à l'échelle des sociétés. Hein, c'est-à-dire qu'effectivement, nous entrons dans un monde d'artifices inventés, novateurs qui constituent à proprement parler l'évolution humaine et l'histoire de l'humanité.
Oui, c'est l'abstraction, en fait, c'est cette capacité d'abstraction qui fait qu'on va pouvoir développer autre chose.
Oui, alors c'est très sujet à caution, cette notion d'abstraction, parce que d'une certaine manière, il est dit comme la pensée. L'intention, la sensation, mais effectivement aussi l'abstraction, sont des phénomènes intérieurs. Nous ne pouvons pas aller les observer, évidemment, chez les animaux. La seule chose, le seul indice que nous ayons de l'abstraction chez l'homme, c'est le langage. Or, là, bon, nous venons d'expliquer que l'homme et les animaux avaient avaient pas mal de relations entre eux. Nous échangeons, nous communiquons avec les animaux, en particulier les animaux domestiques ou domestiqués, hein, mais il semblerait que les échanges à ce niveau-là ne puissent pas prendre l'allure qu'ont les échanges que nous avons, par exemple, derrière ces micros, tous les deux. Et donc, c'est une autre forme de langage qui paraît, donc les mots que nous utilisons de nos langues naturelles, paraissent d'une certaine manière l'exclusivité des humains, en quelque sorte.
RCF, l'œuf et la poule, Olivier Horry.
Stevie Ray Vaughan et Double Trouble toujours, mais dans un autre titre, Lenny cette fois-ci. C'est la conversation philosophique, l'œuf et la poule, une sorte d'écho à l'atelier philo hebdomadaire qui se tient à Aubenas en compagnie d'Odile Autré.
On continue. Alors, qu'est-ce qui pourrait faire la spécificité du langage, notre langage, par rapport au mode de communication animaux ?
Si, il me semble que si on acceptait de limite caricaturer un petit peu, on dirait que les animaux communiquent entre eux dans des systèmes de stimuli-réponse. Si vraiment on poussait la caricature jusqu'au bout, on irait jusqu'à dire, mais c'est en grande partie faux, hein, c'est vraiment très très simplificateur. On serait presque en mesure de dire que les animaux communiquent entre eux comme le thermostat communique avec la chaudière quand il la remet en route, quoi. Hein, c'est-à-dire vous avez une impulsion et qui fait que dans un système donné, un mécanisme donné, vous obtenez une réponse prévue, anticipée, mais de longue date. Alors que le mot, alors ce que ça a comme conséquence, c'est que le stimulus et la réponse sont dans la continuité, littéralement, de l'émotion ou même du mouvement physique qu'il génère, quoi. Bon, alors que avec le langage humain, les langues humaines, les signes que nous utilisons, il se produit une chose inédite, semble-t-il, dans la nature, à savoir que nous utilisons des signes, les mots, qui n'ont absolument aucun rapport avec les sens qu'ils ont. Et donc, nous produisons des stimulus qui, sans un apprentissage correct, ne peuvent donner lieu à aucune réponse appropriée. Si une personne qui me parle chinois mandarin me demande quelque chose, je ne peux absolument rien comprendre. Alors que deux chiens pris n'importe où sur la planète comprendront très bien, se feront très bien comprendre l'un à l'autre par leur attitude physique ce qu'ils sont en train d'exprimer. Donc c'est dans cette intervention dans les communications humaines avec une aisance naturelle, hein, celle que nous avons nous-mêmes ici, quoi. Nous sommes capables d'échanger des bruits, ou si nous nous écrivons, nous sommes capables de nous échanger des signes écrits auxquels, par apprentissage, nous avons attribué des sens qui, alors, et c'est là que ça confine au mystère, l'efficacité relative des langues humaines, c'est que, évidemment, le sens que nous donnons chacun au même mot est différent, en fonction justement de notre apprentissage personnel, singulier, etc. Mais enfin, bon an, mal an, à coup de côte mal taillée, on finit par se mettre un petit peu à peu près sur la même fréquence, comme quelqu'un qui règle son poste de radio pour nous recevoir, là. Et nous arrivons en gros, j'arrive en gros à mettre dans le mot table, est-ce que vous y mettez vous-même, Odile, ou dans des mots beaucoup plus difficiles, comme, je sais pas, moi, constitution de la République, de la Ve République, effectivement, on va imaginer que vous, Odile, vous comprenez à peu près ce que je comprends moi quand je parle de la constitution de la Ve République.
Oui, c'est une forme de codification. Enfin, le langage animal, il serait plutôt sous une forme de codification. Et nous, on arrive à élaborer et donc à faire passer des concepts.
C'est ça. C'est des concepts abstraits avec, et on le voit immédiatement, on a toujours, quand on parle homme-animal, on a toujours cette tentation d'essayer de faire passer la supériorité de l'homme sur l'animal. Et souvent, l'évocation de la question du langage paraît être une bonne occasion, n'est-ce pas, de dire quand même les échanges de verbaux, c'est quand même autre chose que des stimuli-réponses. C'est vrai. Est-ce que c'est supérieur, là c'est beaucoup moins sûr, parce que justement, on voit à quel point l'échange d'idées abstraites sur des bases concrètes, les signes, on voit comment ces échanges-là peuvent être source d'équivoques, de malentendus, et par conséquent, évidemment, d'illusions. Hein, on en parlait un petit peu hors antenne, l'homme, c'est l'être qui raconte des histoires, n'est-ce pas, qui peut faire advenir un monde complètement faux. Hein, à travers ces mots, parce que ces mots vont être porteurs de sens et qu'effectivement, on peut, comme auditeur d'une belle histoire, on peut se retrouver plongé dans les méandres d'un monde qui n'a en fait aucune existence matérielle. Quoi. Ça, il semblerait que pour l'animal, ça soit juste pas possible. Voilà, l'œuf, la conversation philosophique, l'œuf et la poule s'achève sur ces réflexions sur l'homme affabulateur. Nous avons écouté à deux reprises Stiffiré Vaughan, d'abord dans Riviera Paradise de l'album In Step 1989, ensuite dans Lenny, extrait de l'album Texas Flou de sortie en 1983. Il me reste à remercier naturellement Odile Autré, mon interlocutrice, Landy Unger, l'ange musical de l'œuf à la poule, et naturellement, enfin et surtout, Vincent Guigon qui réalise tout ça. Ciao, ciao. Wait a minute.